branche de ma famille, je les suis en remontant loin dans l'histoire, dans mon histoire, presque jusqu'au XIVe siècle, d'un côté en Normandie et de l'autre en Berry. Et en effet, j'ai peut-être été plus fortement marqué par le côté maternel. J'ai repris le nom de mon grand-père maternel, le général de Boisdeffre, qui n'avait plus d'héritier masculin depuis la guerre, n'est-ce pas, mon oncle Jean de Boisdeffre ayant été tué à la guerre. Et par le fait que j'ai été fils unique, que j'ai été adolescent longtemps malade, que l'occupation a représenté une sorte de prison de 4 années, j'ai subi particulièrement l'influence de ma mère, à laquelle, c'est vrai, je le reconnais bien volontiers, je dois beaucoup. Qui est encore, puisqu'elle vit, elle a aujourd'hui 87 ans, une chrétienne d'autrefois, dans une tonalité janséniste. Et il m'a semblé, depuis une dizaine d'années, que l'Église était en train de changer si vite, qu'il fallait que je recueille des images et des souvenirs qui, un jour, paraîtraient aussi anachroniques que peut l'être l'Europe au Moyen-Âge. Et j'ai eu ce sentiment en assistant au couronnement de Jean XXIII à Saint-Pierre de Rome à l'automne 1958. J'étais déjà à cette époque au ministère des Affaires étrangères et j'ai eu le privilège d'assister aux cérémonies qui ont suivi la mort de Pie XII et l'élection de Jean XXIII. Et j'ai eu brusquement le sentiment que c'était l'apothéose de l'Église constantinienne, mais que c'était également sa fin. Et une comparaison m'est venue très précisément à l'esprit, c'est celle de Goethe, assistant en 1792, c'est-à-dire au cœur de la Révolution française, au couronnement de celui qui devrait être le dernier empereur romain germanique, qui était le malheureux François II d'Autriche. Et j'ai eu un petit peu le même sentiment. À l'époque, le protocole du couronnement d'un pape, qui était autant un protocole impérial qu'un sacre religieux, était encore dans toute sa splendeur. Je vois encore, face à la tribune du corps diplomatique où je me trouvais, par exemple, la noblesse romaine, avec ses places déterminées depuis des siècles, depuis la Renaissance, le prince Colonna et le prince Orsini, siégeant tous deux à la même hauteur, mais pas plus haut que le corps diplomatique, mais très au-dessus du reste de la noblesse romaine, et toutes les charges pontificales réparties, c'était celle d'une cour. Et celui qui devenait, presque l'héritier de Charlemagne, puisque l'Empire romain n'existait plus, était un paysan bergamasque qui allait devenir Jean XXIII, mais dont personne ne se doutait, j'allais dire qu'il allait être Jean XXIII, qui avait été un nonce prudent, habile, temporisateur, plutôt conservateur, et qui allait brusquement ouvrir les vannes de l'histoire sur une église figée depuis 3 siècles, depuis la contre-réforme, et qui avait connu à la fois son dernier surcroît de puissance et selon moi, une excessive rigidité dans les dernières années du règne de Pie XII. Et alors voilà pourquoi, ayant passé mon enfance dans un petit canton très limité, très restreint de la chrétienté, mais très original, très structuré, où les moindres actes de la vie étaient régis par notre croyance, je fais cette comparaison, n'est-ce pas, entre la religion et un scaphandre que l'enfant endossait le jour de son baptême et qu'il ne quittait qu'au moment de mourir, et il était vraiment mis à l'écart du monde, à l'abri du monde, non seulement par sa foi, mais par l'ensemble de rites et de conduites et d'interdits qui dictaient entièrement son existence. Et alors nous sommes passés en quelques années de cette foi extraordinairement contraignante, austère et absolue, à une foi beaucoup plus libre, je dirais beaucoup plus aventurée, et l'Église a connu ce phénomène de décompression généralisée dont elle n'est pas encore sortie.
Ce qui m'étonne dans votre récit, c'est qu'à la fois vous parlez de ce passé avec beaucoup de chaleur, mais cependant sans nostalgie et également sans aigreur. De même que vous semblez très accueillant pour cette Église actuelle, très différente, n'est-ce pas, de celle que vous avez connue. Vous vous avez sans doute un esprit critique à l'égard de cette Église, mais aussi quand même encore là la même bienveillance. Comment s'est passé pour vous le passage de cette foi sécurisante à cette foi plus ouverte?
Eh bien, c'est peut-être un trait de mon caractère. J'ai été élevé, en effet, d'une manière, je ne dirais pas rigoureuse, mais austère, ou tout au moins qui paraîtrait telle, certainement aux adolescents d'aujourd'hui. J'ai trois fils qui vont de 15 à 20 ans.
Est-ce que vous les élevez avec la même austérité?
Non, pas du tout, pas du tout. Leur éducation a été très différente. Et cependant, j'ai le sentiment qu'elle est peut-être moins libre, en tout cas moins désordonnée, que celle de beaucoup de garçons ou d'adolescents d'aujourd'hui. J'allais dire, je ne m'en plains pas, mes fils me sont restés très, très attachés. Il y en a un qui passe le concours de Polytechnique, un autre qui va passer le concours de l'ENA. Mais évidemment, leur existence a été tout à fait différente de la mienne. Mais j'ai été marqué par le fait que la foi était une séparation. Et mon ambition d'écrivain, ce qui fait peut-être que je n'ai ni la place ni l'audience que je devrais avoir, je le dis sans modestie, tient au fait justement que je ne veux pas, je n'ai jamais voulu être l'homme d'un clan. Il est facile d'être porté par un public rigoureusement constitué et de lui rester entièrement fidèle. Les définitions simples et exclusives d'autres ouvertures sont faciles. Il est facile d'être gauchiste, il est facile d'être réactionnaire, il était d'une certaine manière facile d'être communiste ou fasciste. Moi, je suis porté à voir le côté positif de toute expérience. Et dans la période que nous vivons, ce que nous avons besoin, c'est d'hommes et d'esprits capables de faire la synthèse entre des aspirations de nature très différentes. Je me souviens de ce choc effroyable qu'a été dans mon enfance, je le raconterai ailleurs, la découverte de l'innocence d'Alfred Dreyfus. Puisque donc mon grand-père, comme vous savez, a été lié à l'affaire Dreyfus. Il était chef d'état-major général au moment de la condamnation d'Alfred Dreyfus. Et j'avais été élevé dans le sentiment de la culpabilité de Dreyfus. Et un jour de l'été 1942, qui reste un des plus mauvais souvenirs de ma vie, un garçon qui était un ami, à côté duquel j'avais passé mon bachot, c'était Ivan Nemirovski. Et notre seul problème à cette époque était de savoir lequel de nous deux aurait la plus grosse mention. C'est lui qui l'a eu. Il était plus brillant que moi. Et j'ai appris quelques semaines plus tard qu'il avait été arrêté. Et ce jour-là, je dirais que des convictions profondes, solides, ont vacillé pour toujours. Je me suis dit que si une France que j'estimais honnête et pure et dans le culte de laquelle j'avais été élevé, qui était celle du maréchal Pétain, laisser arrêter un adolescent innocent, eh bien, Dreyfus lui-même l'était peut-être. Et je dirais que de ce jour a commencé pour moi un travail qui a été douloureux, de révision des valeurs, mais qui a été finalement enrichissant. Je me suis dit que je ne serais jamais l'homme d'un parti, d'une secte, ou même d'une religion qui me séparerait des autres hommes. Que ma vocation était, si possible, de réconcilier et d'unir, et non pas d'opposer et de diviser. Bien entendu, je n'y suis pas parvenu. Je ne suis ni un chef politique, ni... Telle est au moins mon ambition. Et j'ai eu des convictions politiques très solides. Par exemple, j'ai été gaulliste, comme je le raconte dans mon prochain livre, De Gaulle malgré lui, pratiquement depuis l'âge de 20 ans. Bien que je dise également, et je crois que n'ont droit vraiment au nom de gaulliste que ceux qui ont pris des risques pendant la guerre, ce qui n'a pas été mon cas, j'étais trop jeune. Mais enfin, le général de Gaulle m'a honoré de son amitié, presque jusqu'à la fin. Vous savez, comme le raconte Jean Mauriac, j'aurais dû être son dernier visiteur. Et donc, j'ai été gaulliste, mais je n'ai jamais été non plus, je dirais, un gaulliste professionnel ou un gaulliste fanatique ou un gaulliste dressé contre d'autres. Même au pire moment de la guerre d'Algérie, j'ai compris la motivation des partisans de l'Algérie française. Et donc, si vous voulez, les attitudes que je m'efforce d'avoir ne sont pas des attitudes d'opposition ou de séparation. Et alors, pour l'Église, je suis trop conscient, j'étais trop conscient du fait que l'Église était enfermée dans un carcan, qu'elle avait trop souvent coupé tout rapport avec le monde moderne, que ce combat, selon moi, stérile, entre, disons, pour simplifier, les idées de 1789 et les idées qui avaient été celles du second Pie IX et de Pie X, était un combat sans espoir, eh bien, j'ai donc accueilli non seulement le Concile, mais ce qui a suivi le Concile comme une libération. Mais en même temps, il ne me semble pas du tout que l'Église ait à gagner, à refuser tout ce qui est fait avant. Le Concile Vatican II n'est que le, je ne sais plus, le 22e ou le 23e Concile, parmi d'autres. Donc il prendra sa place dans une longue histoire, il s'ajoute à d'autres, mais il ne les élimine pas. Et ce serait une grande folie, c'est là où je me sépare d'une partie de l'aile marchande de l'Église d'aujourd'hui, et particulièrement des clercs, qui me semblent souvent moins raisonnables que les laïcs. Ça ne veut pas dire du tout que nous devions renier, n'est-ce pas, tout l'apport de 2000 ans de catholicisme. Nous n'avons rien à renier, c'est simplement le passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est toujours un passage douloureux. Et la crise actuelle de l'Église me semble être surtout une crise de croissance.
Vous dites dans un de vos livres que vous êtes né à droite, mais la foi des anciens jours, il semble bien que si vous êtes né à droite, vous n'y êtes pas resté, n'est-ce pas?
Et
comment expliquez-vous justement aussi ce passage?
Ce que je le dis d'abord par honnêteté, car je suis frappé par le nombre de gens qui pensent à gauche et qui vivent à droite, ou qui se disent de gauche et qui ont sur bien des problèmes une mentalité des comportements de droite. Et alors moi, je dis en effet que j'ai mis longtemps ma coquetterie à me dire de droite, alors qu'aucun écrivain ne s'avoue de droite, et comme vous savez,
ça se porte mal.
Au point de vue politique, ça se porte très mal. Alors je considère qu'en effet, je suis né à droite, comme d'ailleurs beaucoup de Français, peut-être même comme la majorité d'entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire être à droite? Ça veut dire, et j'ai essayé de l'expliquer dans cette lettre ouverte aux hommes de gauche, qui était une tentative d'expliquer la droite aux Français, et notamment à la gauche, c'est avoir le sens de la continuité, de la tradition, le sens, pour parler comme Barès, de la terre et des morts. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'y enferme, ça ne veut pas dire que né au milieu de la terre et des morts, nous n'allions pas à aller, pour reprendre une formule de Claudel, vers la mer et les vivants. Et pour moi, la découverte du monde, la découverte des autres, la découverte d'autres milieux, la découverte de non-chrétiens a été aussi enrichissante que l'approfondissement de ma propre tradition. Donc je considère que je suis né à droite, mais je ne dois pas vivre enfermé à droite. La droite n'est pas un ghetto, elle l'a été trop souvent. Et par expérience familiale, j'ai constaté en effet combien était redoutable cette vie d'émigré de l'intérieur que j'ai vu mener à des gens que j'ai bien connus. J'ai vu des survivants de l'Action française qui étaient des gens extrêmement respectables, mais qui en venaient, je dirais, à la caricature de leurs propres idées. J'ai vu Maurras lui-même, pour qui j'avais une grande admiration, comme écrivain et comme poète et comme philosophe, tout au moins le Maurras d'avant 1914, tourner à sa propre caricature, n'est-ce pas, et finir par rendre inopérante, stérile et même odieuse à beaucoup de Français les idées qui étaient les siennes, car il est certain que les véritables héritiers de l'Action française, ce ne sont pas Maurras, c'est Honoré de Stiendorf, Camelot Leroy, que les Allemands fusillent un des premiers l'hiver 1941-1942. C'est le colonel Rémy qui fonde le premier réseau de résistance de l'Ouest, et combien d'autres. En effet, je suis né à droite, mais plus je vais et plus je sens que l'injustice, que l'inégalité, que le mensonge, que l'hypocrisie, que le règne de l'argent me sont odieux autant et plus qu'à des hommes qui se disent de gauche.
Dans votre livre, vous vous dites que vous avez eu la foi de votre mère. J'imagine qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, votre foi est devenue une foi personnelle, une foi adulte. Comment là aussi s'est fait ce passage de cette foi d'enfant, la foi de votre mère, à cette foi personnelle qui est la vôtre?
Ah, c'est difficile à dire. D'abord, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr, hélas, que ma foi d'aujourd'hui, qui est restée très réelle, je suis resté croyant, ait la même qualité que ma foi d'adolescent. Je veux dire, l'enfant, l'adolescent, vivent ce qu'ils vivent comme un absolu. Et ma foi était un absolu, il me semble, je le dis peut-être que je présume de mes forces d'ailleurs, mais il me semble que j'aurais donné joyeusement ma vie pour ma foi. À l'époque, il me semble que cela ne faisait pas de doute. Il me semble que j'aurais accepté de payer le prix de ma foi, même de payer le prix du malheur. Et aujourd'hui, je n'en suis plus aussi sûr. Et alors, je reprends le vers célèbre, une foi qui n'agit pas, est-ce une foi sincère? Je crois que la mienne est une foi sincère, mais en même temps, je suis devenu plus conscient que la foi doit être une voie pour la vie, une voie ouverte sur la vie et sur le bonheur de l'homme et des autres hommes, et non plus, j'allais dire, une foi tournée vers le sacrifice et la mort, qui était la foi qui m'avait été enseignée. Car la foi était pleine d'images de mort, d'ascèse. La foi, c'était toujours un retranchement. La foi, c'était toujours « ne fais pas ceci, ne fais pas cela, renonce à ceci, renonce à cela ». La foi, je dirais, idéale, la foi de première classe, pour reprendre un mot de Claudel, eh bien, c'était celle du prêtre, du religieux, qui faisait vœu d'obéissance, d'humilité, de pauvreté et de chasteté. Manifester sa foi, au sens le plus exemplaire du terme, c'était descendre dans l'arène et se faire dévorer par un lion. Eh bien, j'allais dire, ma vocation n'était pas celle du martyr, et je n'avais aucune envie, évidemment, de descendre dans l'arène et de me faire dévorer par un lion. Alors, je pense que c'était en même temps une vision peut-être primitive de la foi. Je pense que la foi, aujourd'hui, ce serait de se préparer à vivre l'amour de Dieu en toute liberté, ce qui est extrêmement difficile, et ce serait de le faire partager aux autres, de rendre cette foi aimable à d'autres qui ne la comprennent pas, ce dont nous sommes souvent si incapables. J'étais frappé dans mon enfance, donc entouré d'excellentes et de saintes gens, par le mépris avec lequel on parlait des athées, avec lequel même on parlait, mettons, des protestants, n'est-ce pas, les autres religions, c'était des sectes qui n'avaient même pas le droit à l'existence. Un mariage mixte, c'était une calamité. Tout ceci, je pense, ce sont de grandes erreurs. Et nous vivons aujourd'hui une époque beaucoup plus libre, beaucoup plus généreuse de la foi, et c'est un bien. C'est un bien, mais en même temps, c'est un mal. Car il est certain que beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, et même pour beaucoup de prêtres, cela me frappe, le mot de foi a perdu sa substance. Je suis toujours étonné quand je vois des prêtres qui me disent qu'ils ne disent plus leur messe, qu'ils ne se sont plus confessés depuis des années. Et sans doute ont-ils des rapports plus confiants et plus libres avec les autres âmes, mais je me demande si le niveau de leur spiritualité est resté le même. Et c'est ce que je voudrais, c'est peut-être un peu la quadrature du cercle, c'est d'une part que l'ouverture soit beaucoup plus grande qu'elle ne l'était autrefois, mais que l'intensité de la foi soit demeurée aussi ardente. Et de ce point de vue, il est certain que beaucoup de choses dans ce monde moderne blessent le chrétien, blessent le croyant. J'ai écrit un essai qui n'est pas encore paru, qui s'appelle « Le prix de l'amour », dont le titre sera « Le prix de l'amour abaissé ». Et c'est une chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'autrefois, bien entendu, l'amour était aussi galvaudé, bien entendu, la femme était traitée en mineur et infériorisée, mais il y avait des hommes et des femmes qui risquaient, je dirais, le tout pour leur amour, qui mettaient leur vie en jeu pour leur amour. Je me demande si aujourd'hui, tout n'est-il pas devenu plus facile, trop facile.
Dans votre livre La foi des anciens jours, vous faites justement allusion à ces figures de prêtres qui vous ont très marqué, n'est-ce pas, le père Douins, le père Teilhard, le père Valencin, et vous allez même jusqu'à dire que le père Valencin était pour vous un maître. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette appellation, et est-ce que c'est important pour vous d'avoir des maîtres?
Eh bien, je dirais que toute ma vie, toute ma jeunesse, en tout cas, j'ai en effet souffert de ne pas avoir eu de maître. Il m'a semblé que je n'en avais pas, et j'en cherchais, je cherchais un maître et un père que je ne me connaissais pas. En un sens, le père Valencin n'a pas été un maître, car quand je l'ai rencontré, j'étais déjà adulte, bien que je n'avais que 20 ans, et d'une certaine manière, ma pensée était formée. Je veux dire, j'avais déjà commencé à écrire, et même à publier mes premiers articles. Je ne pense pas que le père Valencin ait été pour moi, donc en ce sens, un maître. Il ne m'a pas formé. Mais il a été pour moi un critique rigoureux et même redoutable, et il m'a donné peut-être un sens de la rigueur que je ne possédais que très, très incomplètement, que je ne possédais pas suffisamment. Et il m'a donné le sens de la vérité, n'est-ce pas ? Le père Valencin était quelqu'un qui avait écrit avec son frère un article quand il était encore au noviciat des jésuites sur la notion d'immanence, où il avait résumé toute sa foi. Cet article a été condamné par Rome, c'était l'époque de la crise moderniste. Il n'a plus depuis fait l'œuvre de philosophe qu'il aurait dû normalement faire. Il n'a plus fait que des choses secondaires, enfin secondaires d'après lui, dans l'ordre de la hiérarchie des importances, qui étaient des travaux de littérature, mais il n'est pas devenu le philosophe qu'il aurait dû être. Son camarade de noviciat, Pierre Teilhard de Chardin, n'est devenu Teilhard que pour la même raison, parce qu'il s'est rendu compte qu'à l'époque, on ne pouvait pas être un philosophe catholique et penser et écrire librement. C'est ainsi qu'il est devenu paléontologiste, je dirais pour tant mieux, car les voies de Dieu sont impénétrables. Et il ne serait pas devenu l'auteur du phénomène humain s'il n'était pas passé par cette sorte de voie de garage, n'est-ce pas, de bifurcation. Alors, le père Valencin n'a pas été mon maître, mais il m'a permis de mieux prendre mes distances à l'égard de maîtres comme Blondel, comme Valéry, et d'une certaine manière comme Teilhard, dont Valencin, qui était son ami, était peut-être le critique le plus impitoyable que j'ai connu. Mais disons que tous ces hommes n'ont pas été pour moi des maîtres, mais ils ont été des interlocuteurs. L'un d'entre eux, notamment, est ce curé de campagne dont je parle, l'abbé Fonbostier, que j'ai connu en Berry, et d'autres, alors, connus un peu, entrevus un peu plus tard, comme Teilhard et le père Danielou.
On vous connaît surtout, Pierre de Boisdef, comme étant un critique littéraire, et vous continuez toujours à donner une critique mensuelle, entre autres à la Revue des Deux Mondes. Qu'a représenté pour vous cet intérêt pour la littérature?
Eh bien, je dirais que cet intérêt a été très grand, et depuis l'adolescence, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu des études un peu interrompues par la maladie, et grâce à ces maladies fréquentes ou à ces arrêts de travail, je suis devenu, quand je allais une époque où cela compte, 14, 15, 16 ans, un grand lecteur. C'est-à-dire que, en arrivant à l'âge de mon bachot, j'avais, je me rends compte aujourd'hui, beaucoup plus lu que la plupart des garçons de mon âge. J'ai fait à cette époque, dans la réclusion d'une maison de campagne, des lectures immenses. Lectures d'historiens, lectures d'écrivains. Et j'ai conçu alors un amour de prédilection pour certains écrivains. Barrès, qui d'une certaine manière a été mon premier maître en littérature, Chateaubriand, Marcel Proust, et sur un autre plan, Michelet, Taine, Renan et combien d'autres. Alors, vous savez, mon premier livre, Métamorphose de la littérature, qui est paru en 1950, quand j'avais 22 ans, n'était qu'un cahier de lecture. Et c'était si vrai que ce cahier de lecture, je l'avais avec moi à Strasbourg, où j'étais étudiant. C'est ainsi que j'ai trouvé, un peu par hasard, un éditeur. Et la parution de ce livre, le prix de la critique qui lui a été donné tout de suite, a fait de moi un critique un peu par hasard et sans que je l'ai voulu. Alors j'ai gardé cette habitude, cette mauvaise habitude, car peut-être que ce vice impuni m'a fait perdre beaucoup de temps, et d'efforts que j'aurais pu consacrer à la vraie création, j'ai gardé cette habitude de lire et de faire lire. Je ne suis pas un critique à la matière de Roland Barthes ou de l'école de telle qu'elle, qui paraphrase l'œuvre ou qui construisent une œuvre à la place de celle qui existe. Je suis un critique beaucoup plus affectif et j'aime, c'est certain, démonter le ressort de la montre, mais j'aime surtout retrouver l'espèce de rapport séminal qui unit le créateur à son œuvre. Et j'essaye de faire partager au lecteur l'espèce d'enthousiasme que vous donne un livre réussi et dont on se dit « oui, c'est ce que je pensais, j'aurais dû l'écrire ».
Quelle place tiennent vos convictions religieuses dans votre activité de critique ?
Eh bien, je dirais de moins en moins. Il fut un temps, je m'en rends compte aujourd'hui, où j'avais une vue trop exclusivement morale de l'œuvre d'art. Oh, bien sûr, je n'avais pas une vue au sens de l'abbé Bethléem ou de certains critiques du Québec que j'ai encore approchés. Non. Mais j'avais tendance en effet à adresser des sommations à mes écrivains, à leur demander compte de leur notion de l'homme et de sa place dans le monde. Ce sont ces sommations, ces cris d'enthousiasme ou de révolte et parfois ces injures qui peut-être d'ailleurs donnent leur sel ou cet accent passionné aux 12 grandes critiques, aux 12 portraits plutôt que j'ai réunis dans Métamorphose, dans les deux tomes de Métamorphose de littérature. Certains de ces portraits ont une centaine de pages et sont en effet ou des actes d'adhésion lorsqu'il s'agit, disons, de Barrès, de Malraux ou de Bernanos, ou au contraire des refus passionnés lorsqu'il s'agit par exemple de Sartre. Mais aujourd'hui, eh bien, je me sens beaucoup moins le droit de juger. Et notamment, je pense que un critique...
Peut-on être à la fois marxiste et chrétien ? À Rencontre, demain à la même heure, le père Jean-Yves Joliffe répond à cette question de Marcel Brisebois.
De se mettre à sa place.
Pierre de Boisdeffre, je vous remercie.